À Kisangani sur 94,9.
À Kisangani, clôturière mercredi d'un atelier national de concertation et d'échange sur les processus de planification et d'élaboration des plans de gestion des aires protégées en République démocratique du Congo. Un atelier organisé par l'Institut congolais pour la conservation de la nature en collaboration avec ses partenaires. Les participants sont venus des différentes aires protégées de la République. Objectif, faire le point sur l'état d'avancement du processus d'application du CANEVA des plans de gestion des aires protégées et de tirer les leçons sur son application et son appropriation par les unités de planification sur les terrains. Nous avons Dorcas en ligne qui nous fera le point. Dorcas, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous nos auditeurs.
Alors Dorcas, peut-on comprendre par ces constats qu'en République démocratique du Congo, les aires protégées ne sont pas gérées?
Pas du tout, JR. Les aires protégées en RDC sont bel et bien gérées, mais la gestion n'a pas encore atteint les normes standards internationales.
Et qui est-ce qui gère ces aires protégées? Quelle superficie couvre ces sites et de quoi sont-ils constitués?
La RDC compte environ 70 aires protégées. On y trouve des parcs nationaux, des réserves naturelles, des domaines de chasse. Ceci couvre près de 11% du territoire national, soit 24,5 millions d'hectares. Toutes ces aires protégées sont sous la responsabilité de l'Institut congolais de conservation de la nature, ICCN en sigle. La plupart de ces sites sont gérés à travers un plan opérationnel, un programme d'activité où les activités à atteindre sont définies pour une année. Les aires protégées sont gérées principalement par rapport aux pressions, à savoir la lutte contre le braconnage. JR, avec le plan d'aménagement et de gestion, on trouve différentes innovations, telles que le fait de prendre en compte la dynamique des espèces, la valorisation de sites, la recherche scientifique. Mais notre invité, Benoît Kisuki Maté, administrateur directeur technique de l'ICCN, vous donnera plus de détails tout à l'heure. Ces projets d'élaboration de plans de gestion des aires protégées se concrétisent peu à peu déjà dans 3 sites selon l'ADT de l'ICCN.
Alors, qu'est-ce qui a déjà été fait à travers ce programme dans les sites qui ont déjà amorcé le processus de mise en place d'un plan de gestion de leur site?
Je vous propose d'écouter M. Radar Michouli, conservateur du parc national de Kahuzi-Biega. Il explique les travaux déjà abattus et ce qui reste à faire.
Nous avons effectivement commencé la rédaction en 2007, couplée aussi avec les collectes de données et l'analyse de ces données pour avoir une idée, une connaissance parfaite de notre site avant de commencer à écrire notre plan de gestion. Mais au niveau où nous sommes actuellement, nous sommes au niveau de la rédaction. Et fin de la semaine prochaine, je sors déjà le premier draft. Alors, ce qui me restera, c'est maintenant élaborer des plans annexes au plan de gestion. C'est-à-dire, le plan de gestion, il y a d'autres documents qui le suivent, notamment les différentes stratégies par rapport aux problèmes que connaissent le site et par rapport à la vision future. Pendant 10 ans, comment nous voulons que le parc soit? C'est ça le plan de gestion en principe. Par exemple, nous avons planifié 5 programmes, protection, tourisme, conservation communautaire, il y a l'administration, mais il y a aussi la recherche et monitoring. Et qu'est-ce que nous voulons projeter au futur? Nous voulons que dans 5 ans, on puisse être à mesure de contrôler 80% de la superficie de ce parc. Actuellement, je suis à 30-35 à cause de l'occupation du site par des bandes armées.
Alors, nous savons qu'une 30aine des gestionnaires des aires protégées venus des différentes provinces du pays y ont pris part, comme nous l'avons dit précédemment, mais la plupart des participants sont venus apprendre en vue de recueillir l'expérience des autres gestionnaires des aires protégées. Donc, à cela, n'avez-vous pas recueilli les impressions de certains parmi eux?
Si, JR, je vous propose ici celle de M. Koulou-Fala, qui est le conservateur principal et chef du parc national de Lupemba dans les Katanga.
Ils sont dans des réserves où ce site n'est pas encore entamé. Il y a un temps en pratique d'ici là. Nous avons été invités comme des sites observateurs pour voir ce qu'ils ont déjà, ce qu'on travaille en matière. Donc, nous avons appris d'abord sur les conditions, les processus, le plan de gestion, l'applicabilité, les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils ont contourné les recherches de fonds pour les mises en pratique du projet. Réunir des personnes et ressources, donc les parties prenantes, ça c'est très important, ça regroupe beaucoup de gens, des personnes et ressources. Au fond, nous avons appris beaucoup du débit à la fin du processus. C'est que nous avons appris qu'on ne peut pas gérer une terre protégée sans plan de gestion. Donc c'est un outil très important pour la protection et la préservation de nos aires protégées et de nos écosystèmes.
Voilà, bah donc c'est la professeure Gueltal qui a habité cet atelier.
Oui, hier, sachez enfin que la province orientale qui a abrité un atelier qui était national hier est une province considérée verte par les organisateurs. Elle abrite la majorité des aires protégées du pays. On y trouve également 2 de 5 sites du patrimoine mondial que connaît la RDC.
Dorcas, merci. Et nous allons accorder dans quelques instants la parole à notre invité. Et à la prochaine.
Merci.
Du lundi au vendredi, de 12h15 à 15h, hors de Kinshasa.
I'm not going to be able to do it.
Succès allé avec Bilabel sur Okapi. Nous avons en ligne M. Benoît Kisuki Maté, administrateur directeur technique de l'Institut Congolais de Conservation de la Nature, ICCN en sigle. Monsieur Benoît, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, aujourd'hui, la question sur le plan de gestion des aires protégées est à l'ordre du jour, au cours d'un atelier qui a été organisé à Kisangani. Les participants ont abordé plusieurs questions liées à ce problème. Est-ce qu'on peut d'abord savoir qu'est-ce qui a motivé les gestionnaires des aires protégées à se retrouver dans cet atelier, à organiser cet atelier?
Merci beaucoup, l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, depuis 2006, a lancé une nouvelle stratégie de gestion des aires protégées liée à l'exécution des plans d'aménagement et de gestion des aires protégées. Et ceci, c'était dans les soucis de pouvoir redynamiser la gestion des aires protégées à travers un plan de gestion et non comme ça se faisait à l'époque où il n'y avait qu'un plan de travail qui était focalisé sur la répression de menaces, la répression des braconnages. Nous avons estimé que la gestion des aires protégées ne doit pas seulement se limiter sur la répression des braconnages, mais on doit intégrer d'autres formes de surveillance, notamment le suivi de la dynamique des populations animales, la dynamique des habitats et les interactions entre la faune et les habitats, les interactions entre les sociétés, les populations locales et les sites. C'est une masse de données qu'on doit, que les chefs de site, que les chefs des gestionnaires d'une aire protégée doivent pouvoir collecter et essayer de monter une stratégie de gestion qui lie toutes ces données qui analyse toutes ces données et lit cela dans une stratégie de gestion cohérente à partir à tenir compte de l'objectif de conservation à fixer et ceci par rapport à la politique générale de gestion édictée à partir de Kinshasa, de la gestion générale à Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons lancé ce processus. Depuis 2006, il fallait absolument que nous puissions faire une évaluation à mi-parcours du niveau atteint dans le processus d'élaboration des aires protégées, d'élaboration des plans de gestion des aires protégées par les gestionnaires. Et de l'autre côté, ça constitue aussi un atelier de formation pour les sites qui n'avaient pas encore amorcé le processus. Voilà la raison, en fait, qui a fait que je puisse présider cet atelier sur la demande du comité de gestion.
Oui, une curiosité. Quel bénéfice vont tirer les aires protégées au travers de ce plan de gestion?
Le premier bénéfice, c'est d'abord avoir un outil de gestion efficace et efficient pour pouvoir coordonner toutes les activités requises pour une bonne gestion d'une aire protégée. Donc ça va améliorer la manière même dont nous devons gérer nos aires protégées. Et le deuxième bénéfice, ce plan de gestion va nous amener dans un schéma cohérent dans le cadre de la valorisation même de ces aires protégées à travers des côtés la recherche scientifique qui devra en tout cas se pencher sur la valeur exceptionnelle des aires protégées de manière à ce
que... Monsieur Lenoir, vous parlez tout à l'heure de bénéfices que peuvent tirer les aires protégées au travers de ce plan de gestion de ce site touristique. Si vous pouvez nous rappeler, parce qu'il y a certains auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre, vous avez parlé de deux bénéfices. D'abord, l'efficience que pourraient bénéficier ces aires protégées et quoi encore?
Oui, je disais que pour répondre, à travers à travers la production de plans d'aménagement et de gestion des sites, l'air protégé bénéficie d'un outil efficace et puissant pour pouvoir orienter la gestion de l'air protégé et des événements, et un outil qui permet à ceux qui puissent valoriser le site à travers la connaissance scientifique du site, à travers la collecte des formations et sur les espèces animales, les espèces végétales, et essayer effectivement d'étudier la valeur économique, la valeur scientifique de toutes ces espèces-là et tous les autres processus écologiques qui se passent dans la région. Et les bases de données scientifiques vont permettre à ce que nous puissions même essayer de cibler les quelques informations que nous pouvons mettre à la disposition des touristes, des visiteurs qui viennent dans les sites, et ceci accroît aussi l'attraction des visiteurs dans les sites pour promouvoir les tourismes de vision, les tourismes culturels tout autour de l'air protégé. Donc, je veux dire que le plan de gestion non seulement permet une bonne efficacité de gestion et une amélioration de gestion des sites, mais aussi donne de la valeur au site. Et troisièmement, c'est quand même aussi un outil qui permet l'orientation des financements et des gestions des fonds qui sont donnés dans les sites. On sait quels sont les problèmes du site, quelles sont les actions qu'on doit prendre, quels sont les objectifs qu'on doit absolument atteindre par rapport à ces actions-là, quels sont les moyens qu'il nous faut pour le faire, et à ce moment-là, tous les fonds qui sont destinés dans ce site, on connaît un peu quelles sont les actions qui sont préparées pour arriver à un niveau d'amélioration du site. Donc voilà un peu les avantages, quelques avantages que nous avons pour doter chaque site d'un plan de gestion.
Oui, M. Benoît, on va un peu réfléchir, une curiosité d'ailleurs. À l'époque où la coopération marchait très bien, la coopération internationale, et en temps d'été, il y a deux décennies, les aires protégées constituaient un atout touristique majeur pour la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ne pensez-vous pas que, malgré le plan de gestion, si jamais il n'y a pas une coopération avec l'extérieur, s'il n'y a pas de paix, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs?
Merci beaucoup pour la question. En fait, l'attraction touristique, comme vous venez de dire, ne dépend pas seulement de la disponibilité des plans de gestion. C'est plutôt le deuxième aspect de votre réponse, c'est la question de sécurité. Les touristes, comme vous le savez, veulent toujours découvrir des choses à travers le monde. Les visiteurs veulent toujours découvrir des choses à travers le monde. Mais il y a effectivement des choses qui font que ces touristes ne sont pas encouragés à venir, et principalement la question des paix, la question de la sécurité dans les sites. Ça, c'est vraiment un facteur limitant qui ne pourrait pas encourager le tourisme, quels que soient les efforts de nous gestionnaires que nous sommes en train de faire sur le terrain. Deuxièmement, c'est le problème d'enclavement de nos sites. Donc, à partir du moment que les sites restent dans des milieux trop enclavés et non accessibles, ça n'encourage pas les visiteurs qui aimeraient bien découvrir ce que nous avons comme ressources. Et, comme vous le savez, dans la plupart des Congo a des ressources uniques à travers le monde, mais qui ne sont pas accessibles tout simplement parce que les milieux sont trop enclavés. Et troisièmement, il faut une politique nationale pour la promotion du tourisme. Et je crois que ceci, lorsque le gouvernement édicte une politique nationale pour la promotion du tourisme, ceci permet à ce qu'on puisse conditionner tous les autres services qui peuvent intervenir, notamment les services d'immigration, les services de l'ANER, les services, les journalistes, la police. Ce sont des services connexes qui doivent être préparés pour la promotion du tourisme. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Mais
le plan d'aménagement reste quand même un document de base pour pouvoir découvrir la valeur d'un site.
Oui, M. Benoît, une autre curiosité, peut-être parce que là, on a été informé qu'il y a un projet de loi cadre de l'environnement qui est d'ailleurs au Parlement et qui attend d'être peut-être promulgué dans les jours à venir. Est-ce que ce plan que vous proposez, le plan d'élaboration d'aménagement des gestions, ne pourrait-il pas être inséré dans ce projet de loi? Question de son efficacité, par exemple, au lieu de faire un travail d'une manière isolée et laisser la loi cadre évoluer aussi de l'autre.
Bien, merci beaucoup. Évidemment, nous encourageons beaucoup la mise en place des plans cadres. Ça, c'est un effort encouragé au niveau du gouvernement. Mais aussi, je voulais vous dire qu'au même moment que nous évoluons comme gestionnaires des aires protégées, nous sommes aussi experts dans la production de cette loi cadre. Nous connaissons un peu les grandes lignes de cette loi cadre et ce que nous faisons ne va pas aller nécessairement à l'encontre des dispositions qui seront prises dans cette loi cadre. Donc, je vais vous dire tout simplement qu'il y a une nouvelle loi sur la conservation de la nature qui va aussi être déposée bientôt au niveau du Parlement. Et nous connaissons le contenu de ce draft et nous savons que même au niveau du Parlement, il n'y aura pas de profondes modifications. Et deuxièmement, il y a cette loi cadre qui est aussi en élaboration. Nous essayons de tenir compte des drafts, à moins de continuer dessus tous ces drafts-là pour pouvoir intégrer ces drafts dans la vision que nous voulons donner à l'élaboration des plans de gestion. Et puis de deux, je voulais vous informer tout simplement qu'un plan de gestion, c'est un outil technique de gestion qui est flexible. Donc, on fait un plan de gestion pour une période, que ce soit une période de 5 ans ou de 10 ans, et lorsqu'il y a des informations qui s'imposent au niveau politique et qui permettent à ce qu'on puisse modifier un plan de gestion, on le fait.
Il faudrait pas que le plan de gestion soit en distorsion avec la loi cadre, c'est ça ma préoccupation.
Non. En fait, parce que je vous dis que c'est un outil technique de gestion. La loi cadre définit la politique générale de gestion de l'environnement, y compris les aires protégées. Mais ici, le plan d'aménagement est un outil technique pour améliorer la gestion des aires protégées par les gestionnaires de sites. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment une certaine contradiction entre ce que l'État va prévoir et ce que nous sommes en train d'intégrer dans le plan d'aménagement. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes aussi experts dans la production de toutes ces lois, de tous ces outils juridiques qui sont en train d'être dans les ministères. Donc nous essayons toujours de voir vraiment les grandes lignes de ces outils et les intégrer dans ce que nous sommes en train d'amener comme l'aménagement technique dans nos aires protégées. Mais je vous demande de retenir plus que l'aménagement, c'est un outil technique mais flexible. C'est un outil qui est progressivement des objectifs précis et ces objectifs sont évalués après une certaine période et lorsqu'il y a d'autres facteurs qui s'imposent et qui doivent être intégrés, on les intègre facilement. Donc c'est vraiment pas un outil qu'on ne peut pas modifier. Donc vous pouvez avoir vos apaisements.
Oui, et bien Kisuke, nous avons suivi votre intention est d'échanger les plans opérationnels annuels. On a un plan d'élaboration d'aménagement de gestion, mais depuis quand vous tentez de mettre en place ce mode de gestion et combien de temps prendra-t-il?
Bien, merci madame pour la question. Et c'est vrai que je vous ai dit qu'au départ, il y avait un système de planification des aires protégées sur base des plans de travail qui était beaucoup plus focalisé sur les pressions anthropiques sur les aires protégées. Aujourd'hui, nous essayons après ce plan de travail, on a essayé de développer des plans opérationnels annuels qui les vise, qui les objectifs à atteindre pour une année. Alors, la difficulté, c'est que la conservation de la nature exige par moment des objectifs à long terme. Pourquoi atteindre à long terme? Et ceci de se développer dans un plan opérationnel annuel. Nous avons pensé qu'il faille absolument réfléchir à long terme et sur base de ce plan à long terme, mais là, essayer d'exécuter les activités annuellement. Oui. Donc, on voudrait dire que les plans opérationnels, plutôt des plans d'aménagement, qui nous conduisent vers des objectifs lointains à atteindre et qui tiennent compte du suivi de cibles et de conservation.
Oui.
Donc, nous devons assurer que nous sommes en train de suivre le cibles de conservation et les suivis de ces cibles ne doivent pas dépasser des activités qu'on doit envisager pour une année. Il faut prendre plus d'une année.
Oui.
Donc, nous pensons que le minimum d'état il faut pour un plan de gestion, c'est 5 ans, mais sinon on peut aussi planifier pour 10 ans, mais l'exécution se fait annuellement par ce qu'on appelait des plans opérationnels, mais qui sont conformes à un objectif à atteindre dans les 10 ans.
Oui, mais quels sont les sites qui ont déjà amorcé ce processus?
Pour le moment, madame, les processus étaient amorcés d'abord dans les 5 sites du patrimoine mondial.
Mm-hmm.
Donc ici, je vais parler du parc national de Virunga, du parc national de Kahuzi-Biega, de la réserve de faune à Okapi, du parc national de la Salonga et du parc national de la Garamba. Mais il faut vous dire que même dans ce site de patrimoine mondial, le niveau que chaque site a atteint est tout à fait différent. Il y a des sites qui sont encore tout au début, et il y a des sites qui sont déjà bien avancés et qui sont même prêts à déposer le premier draft, comme le parc national de Kahuzi-Biega, qui dans les 2 mois va déjà nous déposer le premier draft. Et après ça, ça sera le parc national de Virunga et les autres vont suivre. Et c'est ça l'objet même de notre atelier, parce qu'il fallait absolument que nous puissions voir exactement quelles sont les difficultés que les sites sont en train d'avoir dans l'application des schémas que nous leur avons donné pour gérer les aires protégées.
Oui, mais
et essayer de donner beaucoup plus de conseils pour qu'ils puissent évoluer.
Oui, mais
voilà.
En parlant des difficultés, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail, dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment?
Principalement, et par rapport à notre atelier, nous avons épinglé deux difficultés majeures.
Mm-hmm.
La première difficulté, c'était la disponibilité des moyens financiers. Dans les sites, il n'y a pas assez de fonds, il n'y a pas de financement qui puisse permettre à ce que nous puissions exactement amorcer ou relancer ce travail d'aménagement des sites. La deuxième difficulté majeure qui a été relevée, c'était la disponibilité à ressources humaines. Donc, l'unité de planification dans un site qui se veut être une unité disciplinaire, multidisciplinaire, parfois, on retrouve dans beaucoup de nos sites des capacités insuffisantes à ressources humaines pour pouvoir amorcer l'élaboration des plans de gestion. Et ceci a permis à ce qu'on fasse des recommandations précises pour essayer de voir comment aider les sites qui n'ont pas encore assez de ressources humaines de manière à ce que nous puissions monter les unités de planification, mais aussi trouver une expertise locale, une formation de ces ressources de manière à ce qu'ils commencent petit à petit à se mettre sur le pas des autres. Donc, mais ce sont les deux aspects et les deux obstacles importants qui ont été relevés. Il y a eu suffisamment de recommandations pour essayer de résoudre toutes ces questions.
Monsieur Benoît Kisuki Maté, nous rappelons que vous êtes administrateur, directeur technique de l'Institut Congolais de Conservation de la Nature, ICCN en sigle. Merci d'avoir été des nôtres et surtout merci d'avoir éclairé la religion des auditeurs qui nous ont suivis.
Merci.